Radio Kapi.
Plus de 200 000 cas de tuberculose enregistrés cette année en RDC, soit le deuxième pays en Afrique et neuvième au monde en termes de fardeau de la tuberculose. Révélation du coordonnateur du PNLT en marge de la journée contre la tuberculose, aujourd'hui 24 mars. Docteur Michel Kassoy est l'invité de ce journal. Ouverture officielle hier de l'école de formation des policiers basée à Chipuka dans le Kasaï oriental. C'est le premier centre de formation des policiers dans cette province. Construite par l'OIM, il accueille pour commencer 200 policiers venus des troupes de la police nationale. Voilà tout pour les titres. Madame, messieurs, bonjour. Encore une fois, bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes bien le 24 mars aujourd'hui et le monde célèbre la Journée internationale de lutte contre la tuberculose. C'est l'occasion pour les États et les gouvernements de réfléchir sur le modèle d'appui efficace à apporter dans la prise en charge des malades tuberculeux, selon Dr Michel Kassoy, directeur au programme national de lutte contre la tuberculose PNLT en RDC. Il faut des moyens conséquents pour réduire le fardeau de la tuberculose en RDC. Dr Michel Kassoy, au micro de JR Lungembo.
La tuberculose constitue un problème de santé publique majeur en RDC. Notre pays est classé en Afrique en deuxième position en termes de fardeau de la tuberculose et neuvième au niveau mondial. Cette année, en 2020, nous avons notifié plus de 200 000 cas de tuberculose sur l'ensemble du territoire national. Tout le monde a, je dirais, le bacille avec lui. Mais le bacille est dormant. Le bacille est quiescent. Il attend des conditions favorables pour se réveiller. Et donc, chaque centimètre de ce pays est supposé être couvert par les activités de lutte contre la tuberculose. Le programme national de lutte contre la tuberculose de la RDC, il est présent dans les 26 provinces où nous travaillons avec les divisions provinciales de la santé, qui a reçu comme mission de réduire le fardeau de la tuberculose en RDC. Pour ce faire, nous devons partager tout le risque de dépenses liées à la santé, mis à disposition du ministère de la Santé, amener de l'argent dans le système de santé pour faire face aux dépenses du système, améliorer le partenariat avec les privés. Je suis optimiste et j'ai cette volonté-là de conduire la voie pour l'élimination de la tuberculose d'ici 2030. Donc, travaillons ensemble.
Kasaï oriental, ouverture officielle hier de l'école de formation des policiers basée à Chipuka, plus ou moins 20 km de Mbujimayi. La cérémonie a été présidée par le commissaire général adjoint, Philemon Patience Mouchidiav. Ce centre accueille pour sa toute première fois 200 policiers venus des troupes de la police nationale congolaise. Esther Ndalafina, reportage.
Cette école de formation des policiers est construite par l'Organisation internationale des migrations, OIM en sigle. On y trouve quelques dortoirs avec des lits en bois, couvert de moustiquaires, un grand réfectoire, une cuisine, des salles de formation équipées en bancs, des bureaux administratifs alimentés en énergie solaire ainsi que des latrines. C'est le premier centre de formation des policiers que dispose actuellement le Kasaï oriental. Pour cette première phase, 200 policiers dont 20 femmes y sont admis pour suivre la formation des bases subdivisée en 4 modules tels qu'énumérés ici par le commissaire général adjoint en charge de la police administrative, Finlemont Patience Mouchidiav.
La formation générale, la formation technique, la formation juridique et un stage d'un mois.
Après 6 mois, ces apprenants deviendront des officiers dans plusieurs domaines au sein de la PNC. Général Romy Ekuka, coordonnateur à la réforme de la police.
Vous serez des officiers de police administrative, des commandants d'unité territoriale, en même temps des commandants d'unité d'intervention, officiers de police judiciaire à compétence restreinte.
Parmi la vingtaine de formateurs, il y a aussi des civils. Gertrude Ndaya leur parlera des violences basées sur le genre.
Ce sont des faits qui se passent souvent dans la police, dans la population. Il faut que les policiers soient formés.
Signalons que les autorités de la police souhaitent que ce centre soit étendu au point de former les nouvelles recrues. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Poursuit des enquêtes sur l'existence d'un réseau de vente et trafic de munitions de guerre dans la région de Beni. Enquête menée par l'auditorat supérieur près la cour militaire opérationnelle du Nord Kivu basée à Beni. Lundi, les enquêteurs ont fini avec la confrontation de toutes les personnes arrêtées dans ce dossier avant de faire une descente sur les lieux supposés de remise des munitions. Plus de détails avec Martial Papimukeba.
Cette confrontation a eu lieu entre les commandants Ansego en charge de l'administration et de la logistique, les chargés de la logistique, les chefs transport, les chefs de dépôt, les commandants compagnie transit de la 32e brigade des unités de réaction rapide des FRDC, les conservateurs de la sous-station de l'ICCN de Moutsoura et des civils, tous arrêtés dans ces dossiers. Les enquêteurs ont ensuite effectué une descente au quartier Kanzulinzuli sur les lieux supposés des remises de munitions après leur sortie illégale du dépôt d'armement de la 32e brigade des unités de réaction rapide des FRDC situées à Mambango au sud de Beni. C'était en présence du commandant en second de la 34e région militaire arrivé à Beni avec quelques officiers de la 3e zone de défense des FRDC pour appuyer les magistrats militaires dans leurs enquêtes. Dans un communiqué publié lundi, les FRDC parlent des enquêtes pour remonter la filière et juger tous les coupables présumés dans cette affaire de trafic de munitions de guerre en précisant que l'infraction est individuelle. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Et puis, après 14 mois de commandement des forces de la MONUSCO en RDC, le lieutenant général Ricardo Ferreira Costa Neves est arrivé fin mandat. Les cérémonies d'au revoir se sont déroulées dans la base Mavivi à Beni en présence des différentes autorités militaires et administratives locales. Dans son message circonstanciel, le général Ricardo Ferreira encourage les forces de la MONUSCO dans la pacification de la région pour sécuriser la population, une mission qui leur est confiée. Les propos du général Ricardo Ferreira Costa Neves, interprété ici par le service de communication de la FIB.
Le général était très satisfait de travailler avec la FIB, avec les partenaires de sécurité et de défense locale, ainsi que les autorités administratives locales. Tous ensemble, nous serons plus forts dans la quête de la paix. La force de la MONUSCO ne ménagera aucun effort dans l'application de ses engagements conformément au mandat. Il est aussi ici afin d'encourager les troupes de la FIB dans leur engagement dans la recherche de la paix ainsi que nos partenaires. Cela afin que nous puissions toujours travailler ensemble et aller toujours de l'avant dans la quête de la paix. Il tient à rassurer tout un chacun que les troupes sont à pied d'œuvre, les troupes patrouillent, les troupes veilleront à tout moment afin de protéger les populations justement conformément à ce mandat.
Par ailleurs, sachez que la violence dans l'est de la RDC a connu une hausse annuelle de 21% en 2020, s'inquiète le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. C'était au cours de sa 46e session tenue le lundi 22 mars à Genève. D'autres détails avec Honoré Missenga Kalala.
C'est une alerte de Michel Bachelet. Au cours de la 46e session du Conseil des droits de l'homme, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a présenté une mise à jour des violences dans l'est de la RDC. Elle a qualifié la situation d'alarmante, ajoutant que les discours des ainsi généralisé et cela au risque d'attiser ces violences. Michel Bachelet a néanmoins reconnu que des efforts ont été faits par les autorités congolaises en vue de garantir la responsabilité des violations des droits de l'homme avec notamment 118 soldats FRDC, 60 agents de la PNC, 102 combattants des groupes armés et 10 éco-gardes condamnés en 2020 pour divers chefs d'accusation. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU pour la RDC, Bintou Keïta, a elle aussi participé à cette séance de travail. Elle a fait savoir notamment que la MONUSCO a documenté de son côté une augmentation inquiétante des attaques des groupes armés contre la population civile.
L'actualité, c'est aussi la rencontre hier à Kinshasa entre une délégation du département d'État américain et le président Félix-Antoine Tshisekedi. Au cours de cette entrevue, plusieurs autres sujets, notamment la paix sur le continent, ainsi que la présidence congolaise de l'Union africaine ont été abordées. Conduite par l'ambassadeur Donald Booth, cette délégation du bureau Afrique du département d'État américain était aussi constituée des représentants des bureaux du Moyen-Orient et d'Afrique en charge de l'expertise scientifique. D'autres détails avec Billy Van Lutumba.
L'ambassadeur Booth a indiqué que leur mission consiste principalement à assurer le suivi de l'échange téléphonique que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu il y a quelques semaines avec la vice-présidente américaine Kamala Harris. Au cours de cette entrevue de plus d'une heure, plusieurs autres sujets, notamment la paix sur le continent ainsi que la présidence congolaise de l'Union africaine ont été abordés. Le département d'État américain compte beaucoup sur une parfaite collaboration entre la RDC et les autres pays du continent, a déclaré M. Booth.
And I'm here with a delegation.
Nous agissons au nom du bureau qui s'occupe des questions africaines au département d'État. Et une personne parmi notre délégation est un expert des questions environnementales au sein de notre département. Et nous sommes ici pour faire la suite des discussions qu'il y a eu entre la vice-présidente Harris et son excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi. Mais par la suite, il y a aussi eu des discussions entre le président Biden et le désir est né pour que nous travaillions de manière très étroite avec le président de la République démocratique du Congo qui assume présentement la fonction de président de l'Union africaine. Nous nous réjouissons de poursuivre les échanges avec le président et surtout de faire avancer certains dossiers qui fâchent. Et nous avons aussi besoin de parvenir à des voies et moyens qui fassent que la coopération avance.
Consécutivement à cette audience, signale la presse présidentielle, la délégation américaine va travailler ce mercredi avec les membres de l'AGOA Task Force présidentielle.
La nationale numéro 1, Kinshasa Matadi, est menacée d'être coupée au niveau de Mitendi. Malgré les efforts d'une entreprise chinoise pour arrêter la progression de l'érosion, une partie de la chaussée a déjà été emportée lors des dernières pluies. Du coup, avec les travaux en cours, une centaine de camions poids lourds sont bloqués de part et d'autre de la route, paralysant ainsi le trafic routier entre Kinshasa et Matadi. Reportage signé Michel Kifindangoy.
C'est depuis 10 heures du matin qu'une longue file d'attente d'une centaine de camions poids lourds en destination du Congo central sont bloqués à Mitendi. Une entreprise chinoise essaye de remblayer avec des moellons au niveau du dépôt Braliman une érosion de plus de 50 mètres de profondeur, 1000 mètres de longueur et 10 mètres de largeur. Ce cratère a déjà emporté une partie de la route lors des dernières pluies, comme le déplorent ses passants.
Ce ravin a progressé sous les regards indifférents de la population et du gouvernement. La pluie de mardi a coupé la route en deux. Nous attendons toujours qu'il y ait mort d'hommes pour trouver des solutions.
Les habitants de Mitendi estiment que les Chinois n'arrivent pas depuis des mois à maîtriser cette érosion et plaident pour l'implication des génies militaires.
Les Chinois n'arrivent pas à maîtriser cette érosion. Ils ne sont pas des bons techniciens. Le gouvernement doit confier les travaux aux génies militaires. Faute de quoi, tout sera coupé jusqu'au Parlement.
D'après un ingénieur des travaux publics trouvé sur place. Si les eaux de pluie ne sont pas bien canalisées à cet endroit, la nationale numéro 1 sera coupée en deux, ce qui bloquerait le trafic entre Kinshasa et Matadi.
Province du Kwilu, les agents et cadres des divisions provinciales des finances et de budget en grève depuis plus d'une semaine à Bandundu-Ville manifestent leur mécontentement et disent regretter l'attitude de certaines autorités du pays. Ils l'ont exprimé dans une déclaration à Radio Kapi. Ils demandent ainsi l'intervention du chef de l'État. Leur déclaration est lue ici par Kalu Tunzo Koatu, président de l'intersyndicale des divisions provinciales des finances et budget du Kwilu, propos recueillis par Irène Boma.
Nous, cadres et agents des divisions provinciales des finances et budget de la province de Bandundu, avons le regret de remarquer une négligence et le sabotage de certaines autorités du pays sur le mot d'ordre du chef de l'État. Nous citons le peuple d'abord, mais qui n'est pas respecté. Ce qui a poussé notre haute hiérarchie syndicale de Kinshasa de déclencher une grève sèche suite au non-paiement du soldes supplémentaires promis depuis l'année 2020 restent impayés. Mois d'octobre, novembre et décembre 2020 s'ajoutent encore les mois de janvier, février et mars 2021 en cours. Nous demandons au chef de l'État, père de la nation, de donner un ordre formel aux personnes qui sont les ennemis du peuple, de nous payer notre rémunération sans condition à tous. C'est la toute première fois d'observer les deux ministères, finances et budget, de décréter une grève.
Et puis sachez que c'est aujourd'hui que la dépouille du député Henri Thomas Lokondo-Yoka sera mise en terre à Mbandaka. L'élu de Mbandaka a été le parlementaire le plus libre dans ses opinions dans tous les débats au sein du Parlement. On reconnut la plupart de ses collègues lors de la cérémonie d'hommage organisée au Palais du Peuple lundi à Kinshasa. Rappelons que Henri Thomas Lokondo-Yoka est mort le 10 mars dernier en Afrique du Sud des suites de maladie.
Actualité Afrique Monde.
Présidentielle au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, président sortant, réélu avec 88,57% des voix pour un mandat de 5 ans, selon les résultats provisoires officiels de la commission électorale annoncée par le ministre de l'Intérieur. Le ministre Raymond Mbulu a lu hier les résultats circonscription par circonscription en direct à la télévision publique. À 77 ans, dont 37 ans cumulés à la tête du pays, Sassou Nguesso l'emporte partout. L'ONG Reporters sans frontières RSF a annoncé hier porter plainte en France contre Facebook pour pratiques commerciales trompeuses. Malgré ses promesses de modération des contenus, la prolifération massive des messages de haine contre les journalistes et la profusion des fausses informations sur le réseau social nous ont conduit à déposer une plainte auprès du procureur de la République de Paris, précise RSF.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le docteur Michel Kassoua, directeur au programme national de lutte contre la tuberculose PNLT en RDC, à l'occasion de la célébration aujourd'hui 24 mars de la journée internationale de lutte contre la tuberculose. Il s'exprime sur les efforts consentis par le gouvernement pour une lutte efficace contre cette maladie, les défis à relever et les stratégies pour réduire le fardeau de la tuberculose à travers le pays. Docteur Michel Kassoua s'entretient avec J.R. Lungembo.
Docteur Michel Kassoua, bonjour.
Bonjour.
C'est aujourd'hui qu'est célébrée la journée de la tuberculose. En RDC, cette maladie opportuniste du VIH-Sida constitue-t-elle un problème de santé publique?
La tuberculose constitue un problème de santé publique majeur en RDC. Notre pays est classé en Afrique en deuxième position en termes de fardeau de la tuberculose et neuvième au niveau mondial. Cette année, en 2020, nous avons notifié plus de 200 000 cas de tuberculose sur l'ensemble du territoire national. Tout le monde a, je dirais, le bacille avec lui. Mais le bacille est dormant, le bacille est quiescent. Il attend des conditions favorables pour se réveiller. Donc le stress, la malnutrition, la promiscuité, le VIH, la COVID-19, pas tellement. Il est vrai que les deux maladies attaquent le poumon. C'est vrai qu'un malade tuberculeux qui a eu une grave atteinte pulmonaire, une destruction du parenchyme pulmonaire, si par mégarde il attrape encore la COVID, qui... lui aussi, comme virus, va s'attaquer au parenchyme pulmonaire, ça deviendra très très grave. Spécialement pour nous qui travaillons dans le milieu avec dans la tuberculose, mais pour toute la population aussi. Parce que personne n'est à l'abri de la tuberculose.
Alors quel est le thème retenu pour cette année?
Cette année, le thème mondial, c'est l'horloge tourne. Et le thème national, c'est l'horloge tourne. Comment réduire le gap de la détection des cas de tuberculose dans ce contexte de la COVID-19? Devant tout, il ne faut pas stigmatiser la personne. Il ne faut pas discriminer la personne. Tout ne veut pas dire tuberculose. Tout ne veut pas dire Covid. C'est la structure de santé de faire le distinguo.
Le programme de lutte contre la maladie existe depuis l'époque belge. Pourquoi la RDC éprouve tant de difficultés dans la gestion efficace de la lutte contre cette maladie? Y a-t-il un problème de moyens?
Non. Je pense qu'avant même d'évoquer un problème de moyens, la tuberculose est une maladie infectieuse. Une maladie infectieuse qui est causée par un bacille qu'on appelle le bacille de Koch, qui se répand très facilement à travers la population, surtout lorsque celle-ci est confrontée à des conditions de pauvreté, à des conditions de promiscuité, à la malnutrition, à des stress, au diabète. Vous voyez, et ce sont ces conditions-là qui créent que la maladie se développe et se transmette d'homme en homme. C'est que cette maladie est présente dans notre pays. Le programme tuberculose, le programme national de lutte contre la tuberculose de la RDC, il est présent dans les 26 provinces où nous travaillons avec les divisions provinciales de la santé, qui a reçu comme mission de réduire le fardeau de la tuberculose en RDC. Et donc, chaque centimètre de ce pays est supposé être couvert par les activités de lutte contre la tuberculose.
Alors, quels sont les défis qui restent à relever dans ces secteurs qui concernent la tuberculose?
Très très bonne question. Je pense que pour faire face aux épidémies qui assaillent le système de santé, qui assaillent notre population, la meilleure riposte, offrir à la population des prestations de soins de qualité. Donc nous devons renforcer le premier, c'est le leadership et la gouvernance. Le leadership de l'État et la bonne gouvernance. Le deuxième pilier, ce sont les ressources humaines de qualité. Vous devez avoir des ressources humaines suffisantes et non seulement en quantité, mais aussi en qualité. Le troisième pilier sur lequel vous devez travailler, c'est l'équipement. Vous devez avoir des équipements de bonne qualité. Partout où vous voulez aller, il y a le diagnostic, il y a le traitement.
Quel est l'état des lieux?
L'état des lieux, je pense que c'est pas très reluisant ces derniers temps. C'est pas très reluisant. Voilà pourquoi le chef de l'État place la couverture santé universelle comme un des objectifs de son mandat. Pas de barrière financière, pas de barrière géographique, pas de barrière culturelle. Tout un Congolais, tout un chacun doit pouvoir avoir accès aux soins. Et pas n'importe quel soin, aux soins de qualité. Pour ce faire, nous devons partager tout le risque de dépenses liées à la santé. Mis à disposition du ministère de la Santé, il doit avoir nos députés aujourd'hui doivent voter des lois. Des lois qui créent des financements innovants. C'est ça? Ces financements innovants, ces taxes, ces impôts vont amener de l'argent dans le système de santé pour faire face aux dépenses du système. Et enfin, ne pas oublier, il faut améliorer le partenariat avec les privés. Parce que je suis optimiste, je compte et j'ai foi en l'homme, que l'homme peut changer les choses. Et j'ai cette volonté-là de conduire la voie pour l'élimination de la tuberculose d'ici 2030. Donc, travaillons ensemble, non pas seulement pour éliminer la tuberculose, mais surtout pour renforcer le système de santé.
Docteur Michel Kassoua-Kayomo, merci de nous avoir accordé cet entretien.
C'est moi qui vous remercie.
Le directeur du PNLT s'entretenait avec J.R. Lungembo Loabung Andji. Ainsi prend fin ce journal supervisé par Martin Sebujangwe à la mise en onde Polydor Basunga. Merci de nous avoir suivis.